Steve Dallaire de Boulevard Brutal, aujourd'hui j'ai l'honneur de m'entretenir avec un groupe français qui vient de sortir un album tout récemment, et puis l'album s'appelle Profane, et je dois vous dire que c'est mon album du mois pour le mois de mai, un album vraiment sadique et brutal, et j'ai donc le plaisir d'avoir à ma compagnie JB qui est chanteur et guitariste de la formation. JB, bienvenue chez Boulevard Brutal.
Ok, ben merci, ben, content de répondre à tes questions.
Et puis, avant de parler de l'album Profane, j'aimerais que tu me parles un peu de Svart Crown. Comment le groupe est né et c'était quoi les influences pour obtenir le style de musique agressive que vous avez aujourd'hui?
Alors, le groupe donc est né fin 2004. On va dire j'ai créé ça quand j'étais au lycée. Avec une bande de potes, etc. Donc, c'est vrai que notre but principal, c'était, moi, je voulais faire vraiment de la musique comme tous les groupes un peu de Death Black qu'il y avait à l'époque. Je me rappelle à l'époque, il y avait Mayhem qui sortait son album Chimera, et qui était un mélange de black metal, mais qui était super différent. Il y avait des influences death metal, des influences thrash, etc. Et des mixtures de plein de choses. Il y avait Gorgoroth qui sortait ses deux albums. To Light of the Idol et puis Ad Majorem Satan's Gloriam, tu vois.
Oui.
Et puis les albums de Immolation, Unholy Cult, Behemoth, il y avait The Occultus. Donc c'était ce mix de groupes qui m'ont vraiment influencé, qui ont sorti des albums à l'époque, qui m'ont vraiment influencé en me disant, bah tiens, ils font une musique vraiment à eux, personnelle, en mixant tout ce qu'ils aiment dans le death, dans le black, dans le thrash. Parce que je voulais pas faire un groupe de pure death metal ou un groupe de pure black metal. J'avais vraiment envie de faire un truc unique, en fait.
Okay.
Donc c'est dans cette volonté que j'ai créé le groupe en faisant quelque chose d'assez personnel. Et donc on a commencé comme ça, on a fait notre première démo, ensuite premier album, deuxième album, et puis voilà. Et là on est en 2011, ça fait bientôt 8 ans je crois, et on a 3 albums. Donc le temps passe vite.
Et puis est-ce que tu considères le groupe plus comme black ou death en ce moment?
Je pense qu'en fait la base profonde est death metal et elle est saupoudrée on va dire de plusieurs éléments qui viennent du black metal, du thrash et encore je dirais même du sludge, du hardcore. Il y a vraiment plein d'influences. On n'écoute pas justement que du metal extrême et c'est ce qui fait je pense la différence. Ça s'entend je pense dans notre son quoi.
Oui, et puis c'était ma prochaine question parce que je voulais parler de l'album Profane. On voit que les influences sont vraiment diverses, spécialement sur cet album-là. Je pense qu'il y a vraiment un travail de recherche qui a été fait dans vos compositions. Donc, je me demandais, premièrement, est-ce que c'est toi qui composes tout ou vous composez ça en groupe, ensemble, dans un local? Comment s'est passé le processus pour la création?
Alors en fait pour la création donc c'est étant donné que je suis le seul membre originel, c'est moi qui m'occupe vraiment de la majeure partie de la composition. Et puis en plus moi c'est vrai que j'aime bien composer au calme justement on a chez moi parce qu'on fait des riffs quand même qui sont assez torturés, qui nécessitent pas mal de réflexion dans les accords, dans les arrangements. Donc en fait je compose tout chez moi à la maison avec mon PC etc. Je m'enregistre, tu vois, je fais mes petites tablatures, mes boîtes à rythme. Ensuite on arrange les guitares avec notre guitariste Clément qui est là depuis maintenant 2 albums, avec qui je m'entends vraiment extrêmement bien. On est vraiment sur la même longueur d'onde au niveau de la musique, on écoute vraiment les mêmes groupes.
Okay.
Et donc il a amené aussi quelques riffs sur cet album là et donc voilà, donc là on compose la base mélodique ensemble. Au niveau de la rythmique, moi je me creuse la tête et je fais des parties en boîte à rythme que j'envoie au batteur. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'habite pas au même endroit en France. On est éparpillés aux quatre coins de la France, donc en fait, on répète quasiment jamais.
Okay.
On répète qu'avant d'enregistrer et avant les concerts. Et du coup, donc ça permet on a trouvé cette méthode pour travailler à distance, être assez efficace, tu vois. Et donc là, bon, après, quand on se voit, on se fait des grosses séances de répétition, on répète une semaine, etc. Et voilà. Donc en fait, moi, je fais mes petites bases, j'envoie ça aux autres, ils me disent ce qu'ils en pensent. Et puis, donc, si ça le fait, on garde la composition, on l'arrange ensemble. Et si ça le fait pas, moi, je retravaille, etc. Donc, voilà. Donc là, on compose, on va dire, un petit peu comme ça. C'est vrai que je me vois pas arriver avec mes riffs dans un local de répète et là, les travailler tous ensemble. Peut-être qu'on le fera prochainement parce que là, le line-up et stabilisé, on va dire, depuis Profane. Là, ça fait 2 ans. Donc, il faut quand même aussi qu'on commence vraiment à bien se connaître. Donc, okay. Peut-être qu'on fera ça pour les prochains disques. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est la façon de fonctionner. Et puis, elle est assez efficace. Donc, ça nous convient.
Et tu parlais de la section rythmique tantôt. Il y a eu un changement pour Profane. C'est maintenant Nicolas Muller qui est votre nouveau batteur. Et corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que depuis qu'il est là, la qualité de votre musique a augmenté, l'agressivité aussi. Penses-tu que son arrivée a quelque chose à voir là-dedans?
Oui. Alors, j'en suis persuadé. Non pas que Gaël Barthélemy était un mauvais batteur, loin de là, hein, mais Nicolas, il est beaucoup plus complet, beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus complémentaire. Il sait jouer de tout, en fait. Donc c'est pas quelqu'un qui va pouvoir être aussi rapide que John Landstreet, par exemple, ou que tu vois des batteurs extrêmes. Quand il s'agit d'aller vite, quand il s'agit d'être violent, il est très bon. Et aussi, par contre, quand le tempo se baisse, il arrive à être fin. Il joue dans des groupes de rock, il joue dans des groupes de stoner, et il sait jouer n'importe quel type de musique, et ça c'est un avantage, et c'est vraiment l'un de ses atouts principaux dans Zwartphone. C'est sa polyvalence. On pourrait pas jouer avec quelqu'un qui fait juste du blast beat ou de la double pédale, c'est pas possible. Donc en fait, du coup, avec son arrivée, ça a justement en fait enlevé encore un frein à la composition. Il y avait des choses qu'on pouvait pas faire avec Gaël, qu'on a pu se permettre avec Nicolas. Du coup, ça nous a libéré, en fait, en quelque sorte. Tu vois, il y a une espèce d'énergie créatrice qui s'est émanée de tout ça, et ça nous a redonné un peu confiance, tu vois, en nous. Ça nous a ouvert d'autres possibilités. C'était un moment vraiment super intéressant. Donc voilà, oui. Et après aussi au niveau, je pense, de la rythmique pure, Nicolas Muller est beaucoup plus tight, tu vois, dans son truc, dans sa frappe caisse claire, etc. Il joue vraiment au fond du temps, il est vraiment bien sur la grille, et ce qui fait que l'album, là, on l'a enregistré avec lui en 2 jours.
Okay.
Il y a quelques petites bidouilles, quelques drops, tu vois, mais voilà, en 2 jours, il a réussi à enregistrer 10 titres que tu connais, quoi, qui sont quand même assez complexes.
Oui.
Donc voilà, donc c'est vraiment, je pense, la personne qu'il nous faut. Ouais.
Et puis qu'il soit capable d'enregistrer toutes ses parties en 2 jours, ça prouve que c'est un excellent batteur.
Oui, exactement.
Et puis un autre aspect important de la musique de Zwartcrown, c'est ta voix.
Ouais.
Ta voix est vraiment spéciale, et puis c'est ce qui fait la force du groupe carrément. Comment t'as réussi à développer cet aspect aussi diabolique de toi-même?
Avec le temps, je suppose. Après album après album. C'est un petit peu comme tout, tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui fonctionne pas. Le studio, bon, j'essaie de le préparer au mieux, mais c'est vrai que la voix, c'est ce que je fais en dernier. C'est-à-dire que je pense que je me considère plus guitariste avant tout que chanteur, en fait, tu vois. Moi, je chante parce que, bon, entre guillemets, il faut chanter, et puis j'ai pas envie d'avoir un chanteur. donc en fait, je me suis mis au chant un peu par hasard, et puis bon, après, voilà, ça me convient, je trouve qu'à 4, ça fonctionne. Comme ça, donc c'est vrai que bon, j'ai des exemples, par exemple, tu vois, mais étant des guitaristes chanteurs que j'admire beaucoup, tu prends, c'est sûr que par exemple Nergal de Behemoth, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il arrive à faire les deux, il a une très bonne voix, etc. Il arrive à faire une voix gutturale, en même temps il bosse beaucoup dans les bas médiums, ce qui fait qu'il a une voix très personnelle qui colle très bien à une musique justement death black. Et donc c'est vrai qu'il y a des influences de Nergal, on m'a souvent dit, tu vois, cette espèce de raclement de gorge. Mm-hmm. C'est pas du guttural comme si se fait dans le death metal, tu vois. Par exemple, je serais incapable de faire des voix comme aussi gutturales que fait Ross Dolan de Immolation, tu vois.
Ouais.
C'est impossible pour moi, c'est vraiment trop guttural, j'arriverai pas. J'essaie en fait d'adapter comme les compositions de fluctuer en fonction des du ressenti, des émotions, alterner des voix death metal et des voix black metal, plus après des voix plus hurlées, hardcore, etc. Et donc c'est vrai que pour cet album-là, j'avais un peu prévu les placements, les paroles ont été faites un peu au dernier moment, etc. Et c'est vraiment, j'ai improvisé vraiment dans la cabine de chant, vraiment ce qui me venait à la tête, les superpositions de voix, etc. Et à des moments, j'avais vraiment envie de faire des trucs super frénétiques, vraiment diaboliques, pour vraiment accentuer le côté brutal de la musique.
Oui.
Donc Donc voilà, avec des superpositions, des fois un côté limite très grindcore, tu vois, sur certains trucs. Un peu comme ce que peut faire aussi le chanteur de Nan La Track, des fois, même si lui, il est vraiment encore plus chaotique et diabolique, je dirais. voilà. Il y a aussi Mortus de Marduk, que j'aime beaucoup, et puis Alchemist. Je trouve que lui, c'est vraiment peut-être le meilleur chanteur extrême en ce moment. Vraiment, il est incroyable au niveau du chant. Il arrive vraiment à apporter un truc en plus par rapport à la musique. Donc, ça, on va dire, c'est en travaillant dans cet aspect-là que je me suis, c'est sur cet aspect-là que je me focalise au niveau du chant. Voilà, donc je suis content que tu aies apprécié le travail.
Oui, et puis pour ce qui est des textes, j'imagine que c'est toi qui les composes aussi?
Alors les textes, j'en ai composé sur les 9 titres, parce qu'il y a 9 titres avec des paroles, j'en ai composé 6. Et Nicolas, donc, étant donné qu'en fait Nico est journaliste, okay. Il est vraiment très bon dans la manière d'écrire. Il a déjà écrit pas mal de bouquins, etc. Et c'est vrai qu'au niveau des textes, c'est un petit peu moi le point faible. Je suis assez lent à produire. Donc là, il a pondu deux textes. Je donnais un petit peu le concept, tout ça. Et il a pondu deux textes sur l'album. Et il y a Clément, le guitariste, qui en a composé un aussi.
Okay.
Clément, ça nous tenait à cœur qu'il écrive un morceau à lui. Donc voilà.
Et puis présentement, votre album reçoit des critiques magistrales. J'ai vu plusieurs critiques sur Internet, aucune n'était négative. Donc, est-ce que ça te surprend, toute cette superbe réaction face à l'album?
Écoute, je suis très content parce que, enfin, ce qui se passe, c'est que la presse, les retours presse sont toujours, on va dire, importants. Il vaut mieux que son album soit acclamé, on va dire, que détesté. Oui, je suis content. Je suis très content aussi que, bon, en France, on n'a jamais trop eu de soucis. Après, j'étais assez confiant par rapport au retour de l'album. J'étais un peu plus perplexe par rapport au public nord-américain parce que c'est quand même quelque chose qu'on a envie de conquérir au fur et à mesure. Donc là, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, les retours sont vraiment très bons. Les gens arrivent à percevoir vraiment ce qu'on a voulu faire. Par contre, là où le bas blesse, c'est les retours sont vraiment pas très très bons, c'est en Allemagne. En Allemagne, les journalistes, on a vraiment pas des bonnes notes, justement, c'est plutôt l'inverse. J'ai pas exactement lu dans le détail ce qui se dit, mais bon, je sais que les Allemands sont un peu, tu sais, ils aiment pas trop ce qui est un peu le cul entre deux chaises, si tu vois ce que je veux dire. Ils aiment bien les trucs très straight, tu vois, le death metal, c'est les zombies, c'est les etc. C'est le death suédois ou le death américain, hein? Et puis le black metal, c'est pareil, c'est soit le black metal scandinave ou alors le black metal français, mais attention, il faut que ce soit trop ambivalent, tu vois. Et donc, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à comprendre. Et même, tu vois, on a fait un fest là en Allemagne et ça c'est pas très très, enfin. Ça s'est passé, mais tu sentais que le public ne connaissait pas trop certains ont apprécié, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas trop leur cas, ce qu'on fait. Mais bon, en tout cas, par rapport au retour, je suis quand même très content de manière globale. C'est quand même super.
Et puis, la France produit depuis quelques années vraiment des beaucoup d'albums de métal extrême. Je pense à vous autres, je pense à Regarde les hommes tombés récemment aussi. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment pour vous mettre aussi en colère?
Alors, en France, c'est vrai que depuis bientôt, je pense, 5-6 ans, il y a vraiment un truc qui se passe en France. Les groupes sont de mieux structurés, peut-être plus encadrés, je sais pas. Il y a vraiment une volonté de sortir un peu aussi du territoire français. Je pense qu'en dans tout ce qui est musique, on va dire dark et extrême, je pense qu'en ce moment en France, on a peut-être les meilleurs groupes. Je dirais que ce soit dans le black metal, on a Aozot que j'aime beaucoup, qui est très sombre, qui est vraiment torturé. On a Despel Omega qui est vraiment une valeur sûre. Les Blotos Nord, tout ça qui ont déjà, on va dire, breaké à l'international depuis longtemps.
Oui.
On a toute une frange aussi qui est plus hardcore, d'une scène à vraiment à la Deathwish, donc tout ce qui est Converge, etc. Où là, on a des groupes comme Céleste, justement, Regarde les hommes tombés qui est nouveau, que je n'ai pas trop écouté encore, mais je connais de nom. Et on a Céleste, on a un groupe qui s'appelle Kickback aussi, qui est incroyable, qui est vraiment l'un des groupes les plus evil de France, quoi.
Okay.
Qui fait vraiment, c'est vraiment la musique du diable, quoi, vraiment pour le coup. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cette culture de la noirceur dans notre musique, en France maintenant. Vraiment, je pense. Et puis bon, tu vois, nous, on se connaît un petit peu tous, et puis on voit un peu ce que chacun fait, et ça aussi, ça nous donne envie de repousser un petit peu nos limites. Tu vois, quand tu vois que ton voisin a fait un disque très sombre, etc., bah tu dis, bah tiens, waouh, celui-là, il est vraiment, voilà. Et ben, donc c'est vraiment, on est vraiment attiré, je pense, par ce côté-là. On a envie de faire de la musique ambiancée et pas juste du bruit, en fait. Tu vois, on a envie qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait des mélodies, etc. Après aussi, tu vois, je dirais qu'en France, on a aussi dans le death metal, ça commence un petit peu. Je trouve que c'est un peu à la traîne, même si on a de très bons groupes comme Benighted, comme Gorod aussi, qui est passé récemment.
Oui.
Voilà, qui sont dans un autre style différent, mais qui sont aussi très bons. Et on a tous aussi une scène qui est plus, on va dire, je sais pas si je pourrais appeler ça gent, mais qui est plus dans du metal progressif. Par exemple, tu prends des groupes comme les groupes de la clonosphère, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, comme Acrid, comme Clone, Hypnose, des groupes comme ça, qui suivent un petit peu le modèle de Gojira, tu vois,
je les connais pas, une fois que j'écoute.
C'est pas très noir, mais c'est vraiment excellent. C'est vraiment des groupes qui sortent vraiment du lot. Il y a un autre groupe aussi qui s'appelle Erinandae, qui est vraiment excellent, qui font des musiques, des morceaux assez longs, très prog, des mix entre Tool, Meshuga, etc. Et à ce niveau-là, il y a vraiment des trucs qui justement sont remarqués à l'étranger. À chaque fois, j'arrête pas de lire justement, des exemples de groupes, etc. Et je pense que d'année après année, si les groupes s'accrochent et continuent à tourner à l'étranger, ça va encore amplifier le phénomène, je pense.
Et puis, avec la scène métal comme ça qui s'agrandit en France, est-ce que c'est possible pour vous de vivre de votre musique ou vous devez quand même garder un travail de jour?
Nous en fait c'est assez compliqué parce que pour l'instant on va dire il y a pas assez de revenus pour pouvoir vivre ça pour l'instant. Par exemple, tu vois, un groupe comme Svartron, même si ça peut être considéré comme une petite entreprise, tu vois, parce que ça génère des revenus, mais ça nous permet juste de survivre et d'équilibrer nos frais, en fait, tu vois. On n'arrive pas à se dégager de l'argent à titre personnel. Il faudrait qu'on soit peut-être deux fois plus populaire, en fait, en France.
Okay.
Pouvoir, parce qu'en France il y a un système pour les artistes qui s'appelle l'intermittence du spectacle. Je sais pas si vous avez ça au Canada, qui en fait permet, il faut faire un minimum de dates à l'année, mais bien payé, où tu dois être déclaré, etc., aux impôts.
Okay.
Et ensuite après t'as une caisse de chômage qui te paye, qui te fait un salaire fixe au moins, en fait, quand tu joues pas. Donc c'est un système très français, en fait, voilà. Et bon, pour arriver dans ce truc là, c'est vraiment les groupes franco-français qui arrivent vraiment à l'avoir, parce que ils tournent dans des endroits qui sont financés par l'État, en fait. On a plein de scènes et de salles de spectacle qui sont financées par le gouvernement français, en fait.
Ok.
En gros, et donc ces salles peuvent se permettre d'acheter, en fait, on va dire, ces groupes là à perte, parce qu'elles savent qu'à la fin de l'année elles vont être rentables, tu vois. Donc, on va dire qu'il y a tout un système comme ça qui fait que certains groupes peuvent l'être. Par exemple, le Gojira peut vivre de sa musique, bon, parce qu'ils sont très populaires, mais parce qu'ici ils ont aussi ce système-là, donc qui leur permet aussi de pouvoir tourner des fois à l'étranger, parce qu'il leur a permis à l'époque de pouvoir tourner à l'étranger à perte, sachant qu'ils pouvaient vivre de leur musique en France. Wow. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, mais bon, nous pour l'instant, on est encore obligés de travailler. C'est d'ailleurs compliqué, parce que trouver un emploi quand on fait beaucoup de concerts comme on le fait, avoir un emploi stable, c'est vraiment pas évident. On est obligé de faire des petites missions à droite à gauche, etc., des petits boulots.
Ouais, parce qu'il faut être capable de se libérer au moins 2-3 semaines pour aller faire une tournée. Comme je crois même que vous êtes venu au Québec en 2012 avec Ulcerate, si je me trompe pas.
Exactement, c'est ça, ouais.
Et puis, est-ce qu'on peut se rattendre à une visite en terre québécoise pour Svartcram?
Ben, on aimerait beaucoup. Alors, après, c'est vrai que venir au Canada, c'est encore autre chose, parce qu'il faut, tu sais qu'il y a quelques festivals ici, etc. Mais bon, c'est vrai que il y a plein de problématiques. Il faut quand même, être un minimum reconnu là-bas, pour que le promoteur puisse au moins avancer des frais pour payer les billets, etc. Et après, si c'est dans le cadre d'une tournée nord-américaine, il y a tout le problème des visas. Je pense que vous avez dû en entendre parler.
Oui.
Pour les groupes européens, c'est quelque chose d'assez dur. Je crois même pour les groupes canadiens, tourner aux États-Unis, c'est possible, mais il faut payer un visa. Mais pour les groupes européens, c'est très dur. Très dur de l'obtenir, c'est très dur, ça coûte cher, etc. Donc bon, c'est, voilà. c'est des conditions qu'il faut réunir, donc il y a beaucoup de choses à voir, mais nous, on n'attend qu'une chose, c'est de revenir, parce qu'on avait beaucoup aimé notre passage au Québec, notamment à Montréal. On avait fait une très bonne date au Catacombe, là, c'était vraiment super.
Ben oui, une des belles salles métal de Montréal, oui.
Exactement, et puis en plus, on s'est vraiment senti bien à Montréal. Enfin, nous, c'est une ville qu'on a vraiment appréciée. On a trouvé qu'il y avait un espèce de mélange entre la culture, il y avait on va dire comme un espèce de socle de culture américaine, les grandes villes, etc., même la culture de la musique, etc., mais avec un côté européen, justement, que les Américains ont pas, et justement, bah, après aussi avec le côté français, francophone, c'était vraiment agréable. En plus, il faisait beau, enfin, j'ai trouvé les gens sympathiques, accueillants, vraiment, c'était justement, humainement parlant, aussi, c'était une très belle rencontre, donc, on espère de tout cœur revenir au public.
Parfait. Puis récemment, on a appris le décès de Jeff Hanneman de Slayer. Premièrement, est-ce que ça a été une influence pour le groupe? Et si oui, est-ce que ça vous a affecté d'apprendre son décès comme ça?
Écoute, moi j'ai vu ça sur Internet le matin avant de partir en tournée. Et ça m'a, ouais, j'ai versé une petite larme, je t'avoue. Ça m'a vraiment, moi, Jeff Hanneman, enfin Slayer de manière générale, c'est l'un des groupes qui m'a donné envie de faire aussi Sizzler Patron, tu vois, envie de faire du métal, vraiment violent. Quand j'écoute Slayer, je suis pris, j'ai envie de tout éclater. C'est l'un des rares groupes qui me procure cette émotion. J'estime qu'ils ont une discographie quasiment parfaite. Même leurs derniers albums, pour moi, il y a des choses bien. Il y a des choses bien. J'étais assez attristé de voir que Jeff Hanneman ne jouait plus de la guitare dans Slayer en live. Bon, je me dis qu'il reviendrait petit à petit, mais apprendre sa mort, ça m'a fait un truc beaucoup plus que d'autres artistes, peut-être plus vieux. Jeff Hanneman, c'est vraiment ma génération de groupe métal, et donc c'est vrai que ça nous a fait un truc, sachant qu'en plus c'est l'un des compositeurs de Slayer, peut-être, j'en sais pas beaucoup, mais c'est celui qui a composé tous les tubes de Slayer.
Oui.
Et bon, voilà. Donc ouais, donc c'est une perte énorme, et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont été attristés de sa mort, en fait. Vraiment. Dans la communauté métal, j'ai vu énormément de messages, etc. Donc bon, ouais, je pense que c'est un grand musicien métal qui est parti. Et je pense qu'il va manquer.
Oui. Et puis, je regardais les tournées que vous avez faites récemment. Je regardais sur votre site internet et tout. Vous avez tourné avec Shining. Est-ce qu'ils sont aussi bizarres qu'ils le laissent paraître?
Écoute, Shining. On va dire qu'il n'y en a qu'un seul qui est vraiment bizarre, c'est Nicolas,
oui,
le chanteur.
Oui.
Qui, je pourrais dire, en fait, c'est un espèce de grand enfant complètement perturbé. C'est un personnage à part entière. J'en ai jamais rencontré des comme ça. Il est vraiment particulier. À moitié mythomane, à moitié, il est complètement névrosé, alcoolique, drogué. En même temps, c'est un génie, quoi, de la musique, quoi. Il a une sensibilité artistique incroyable. On a passé je me souviens de soirées, on n'était que tous les quatre, c'est-à-dire lui, moi, le guitariste Clément, et puis un autre, peut-être, il y avait aussi Antrone, donc Régis de Antrone.
Oui.
Il était là à boire des coups, vraiment à saouler la gueule, et puis en écoutant de la musique, et puis prenait son iPod, et puis on passait d'un Johnny Cash à un Danzig en écoutant Christina Aguilera, des chants roumains complètement perturbés. Il a une grosse culture musicale, il s'influence énormément de plein de choses différentes, et ouais, non, c'est vraiment un artiste incroyable, mais c'est vrai qu'il est bizarre. Moi, on appréhendait un petit peu de partir en tournée avec lui au départ. Après, il nous a mis à l'aise directement. Il dit voilà, moi je suis content que vous soyez là, etc. Donc ça le fait. Et puis au fur et à mesure de la tournée, on s'est très bien entendu. Il y a vraiment eu aucun problème. Et voilà, les choses se sont très bien passées. Mais c'est vrai qu'il est quand même étrange. Hein. Étrange et puis extrêmement névrosé. Et addict surtout, hein. Quand il a consommé une quantité astronomique d'alcool, j'ai jamais vu autant d'alcool et de drogue que sur cette tournée, quoi.
Wow.
Donc voilà. Mais bon, c'est une expérience. Après, au fur et à mesure de la tournée, on voyait de moins en moins. Il se levait, je sais pas, il était 18h du soir. Enfin, il dormait. Enfin, il se couchait à 6h du matin. Il se levait il se levait même plus pour faire ses balances. Et puis bon, voilà, quoi. Il arrivait pour jouer, et puis puis d'y coller, puis
voilà, quoi. Bon, au moins, il maintient l'image qu'il projette.
Non, exactement. Franchement, moi, je l'ai senti exactement fidèle à son image, quoi. Provocateur, etc. Voilà, bien. Mais bon, après, voilà, c'était un bonheur de tourner avec Shining. Moi, je suis fan de ce groupe depuis le deuxième album, ou le troisième album qui s'est sorti à l'époque sur leur label en 2002, je crois, et on était très contents de tourner avec eux, quoi. C'était vraiment, j'adore leur album, le 5, Amstadt.
Oui.
Vraiment excellent, et c'était un bonheur de les voir jouer chaque soir. C'était vraiment, je m'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les regarder 20 fois à la suite, quoi.
Et puis on parle d'image, on parlait du chanteur de Shining. Votre image à vous, vous avez quand même une image assez sauvage, solide, mais contrairement à peu près tout le monde qui pratique votre style, Death Black, en général tout le monde porte des maquillages de raton laveur, et vous avez décidé de pas porter de maquillage. Est-ce que vous en avez déjà porté, ou est-ce que vous avez déjà eu l'intention de le faire?
Non, ça n'a jamais été le truc, parce que justement, en fait, je pense que, étant donné qu'on a une base assez death metal, vous voyez, tu vois, on est des gars assez simples, en fait, tu vois, on n'a pas envie de tricher sur ce qu'on est, on parle de choses qui nous influencent, tu vois.
Oui.
Dans la vie, tu vois, c'est-à-dire qu'on fait de la musique, on fait de la musique qu'on aime, c'est-à-dire la musique noire et percutante, violente. Forcément, on va pas commencer à parler d'histoire d'amour ou trucs comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Et puis même toutes les histoires un peu macabres, etc., vraiment les déviances humaines nous intéressent et nous inspirent pour nos paroles et pour notre musique, tu vois.
Oui.
C'est vraiment la part sombre de l'être humain qui nous intéresse. Après, côté de ça, on reste des gars normaux, on rigole, on se prend pas la tête. On essaye d'avoir, on contrôle un tout petit peu notre image en faisant le strict minimum, tu vois, c'est-à-dire on n'est pas là non plus à prendre des pseudos, etc. Mais donc le maquillage, je pense qu'on le laisse aux mecs qui font du black metal, ça c'est très bien comme ça. Je me vois pas, en fait, porter un maquillage. Je vois pas trop à quoi ça servirait, en fait. Et donc on reste assez simple, tu vois, en concert.
Ben, justement,
comme certains groupes, quoi, j'en sais rien, mais bon, voilà. Non, vraiment, là, on joue, on fait de la musique en priorité, puis après le reste, tout ce qui est artifice, on va dire, on le laisse aux autres.
Ben, JB Lebaille de Svar Crown, merci beaucoup de ton temps, c'était vraiment apprécié. Entrevue super intéressante, et puis ce que je conseille aux gens, aux lecteurs de Boulevard Brutal, c'est d'aller se procurer l'album Profane le plus tôt possible. Il est disponible depuis mardi en Amérique du Nord, et c'est un classique d'un bout à l'autre. Donc, JB, avant de quitter, est-ce que tu as un message pour tes fans québécois?
Ah bah écoute, j'espère qu'il y a déjà qu'il y en a des fans québécois.
il va en avoir, ça c'est certain.
Voilà. Et puis on espère revenir au plus vite. Et puis on adresse un message surtout à un groupe qu'on aime beaucoup qui s'appelle Gorguts.
Oui.
Sortez vite l'album, parce que là on a marre d'attendre depuis 2 ans, quoi.
On fait le message.
J'en ai marre d'écouter toujours le même morceau sans chant en pré-production sur YouTube. J'ai dû l'écouter déjà 100 fois.
Oui. Donc, c'est bon quand même, mais.
Oui, il est pourtant prêt, mais bon. Il faut que nos amis Tizen of Miss se dépêchent à le sortir.
Bon, ben parfait. Merci beaucoup, JB. Et puis, ouais. En espérant vous voir au Québec très bientôt.
Pas de problème. Bah, c'est tout le plaisir est partagé. Et puis, je te souhaite une bonne fin d'après-midi, parce que toi, c'est encore l'après-midi.
Oui, exactement. Il est 14h35 présentement. Mais merci.
Pas de problème. À bientôt.
Bye bye.
Au revoir.